Ce soir, nous allons parler de Dieu et de guérison en cherchant à répondre à cette question. Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Alors, à bien des égards, c'est un sujet délicat. C'est déjà un sujet délicat humainement parce que les personnes qui s'intéressent à cette question sont souvent confrontées pour elles-mêmes ou pour des personnes proches à la maladie. Alors cette maladie peut être physique, mais nous pouvons aussi percevoir des blessures intérieures liées à un passé blessant ou bien un vécu douloureux qui nous handicape aujourd'hui dans notre vie présente. En règle générale, c'est lorsque nous sommes confrontés à une maladie handicapante, douloureuse, longue ou pénible et même difficile à soigner, que nous nous demandons si Dieu peut guérir. Dieu n'est pas toujours celui vers lequel nous nous tournons en premier. On prend d'abord rendez-vous chez le médecin, et quand le médecin, après nous avoir pris donc les 300 euros, on voit qu'il n'y a pas de changement, on se dit peut-être, mais est-ce que Dieu pourrait faire quelque chose? Et quand on se pose cette question, ce n'est pas juste la curiosité qui nous motive, mais c'est bien sûr le désir de guérison, le désir d'un retour à une vie normale, comme les personnes en bonne santé. Et donc nos sentiments et nos propres désirs sont donc fortement impliqués dans cette réflexion. Dieu guérit-il encore aujourd'hui? C'est aussi un sujet délicat parce qu'il n'est pas facile de discerner comment la guérison intervient. Ambroise Paré, le célèbre chirurgien des rois au XVIe siècle, disait cela: « Je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. » Et mon médecin favori, je l'ai également entendu dire cela. En règle générale, Dieu intervient dans ce monde en respectant les lois naturelles qu'il a lui-même fixées, en particulier celles de la physique, par exemple, de la chimie, de la biologie. Et Dieu intervient alors dans un processus de guérison sans qu'on le remarque forcément. Mais comment ne pas voir la main de Dieu derrière les plantes médicinales et parfois aussi derrière l'invention tout à fait hasardeuse parfois d'un remède? Quand on découvre des fois comment certains remèdes sont apparus, on dit mais c'est un sacré concours de circonstances pour qu'on se soit rendu compte que telle ou telle chose soignait. Dieu peut guérir grâce à la médecine, mais bien sûr il peut aussi guérir de façon miraculeuse, c'est-à-dire guérir en allant au-delà des lois naturelles que lui-même a fixées. Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Alors c'est également un sujet délicat sur le plan théologique, c'est-à-dire sur la compréhension que nous avons de Dieu, parce qu'il nous faut veiller à conserver le juste équilibre qui se trouve dans la Bible. Parce qu'il y a deux extrêmes dans lesquels nous ne devons pas tomber. Celui qui consisterait à croire que Dieu guérit toujours lorsque nous faisons ceci ou cela. Et puis l'autre extrême dans lequel il ne faut pas tomber non plus consisterait à croire que Dieu guérissait autrefois, avant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À la question « Dieu guérit encore aujourd'hui ? Dieu guérit-il encore aujourd'hui ?» la juste réponse qui prend en compte l'ensemble des données bibliques est celle-ci: « Oui, Dieu peut guérir aujourd'hui. » Ce n'est pas « Dieu va guérir », ce n'est pas non plus « Dieu ne va pas guérir », c'est « Dieu peut guérir ». Alors cette position d'équilibre, elle n'est pas la plus simple, parce qu'elle est à la fois porteuse d'espoir, mais en même temps, elle n'offre pas la garantie d'une guérison. Et parfois, nous préférerions entendre soit oui, soit non, mais pas peut-être, parce que cette incertitude nous empêche de nous projeter dans l'avenir. Moi-même, il y a 17 ans, j'étais malade et pendant un an, je n'ai pas pu travailler ni mener une vie normale. Il y a même un moment où je n'aurais pas pu assister à une soirée comme vous ce soir, parce que déjà je n'aurais pas eu la force de venir. Si jamais quelqu'un m'avait amené, je n'aurais pas eu la force de manger. Je n'aurais pas eu non plus la force même de rester assis, comme vous êtes sur une chaise, ni même de garder la tête droite sur mes épaules. Et puis pourtant, dans cette pièce qui n'est pas froide, qui est bien chauffée, pour que moi-même je ne sois pas transi de froid, il aurait fallu que je mette un gros manteau, un bonnet et des gants. Et puis, à supposer que je ne me sois pas endormi, ce qui n'était déjà pas garanti, de toute manière, je n'aurais pas compris le quart de ce qui aurait été dit. Alors bien sûr, au cours de cette période, j'étais suivi médicalement, j'étais hospitalisé à plusieurs reprises, et puis j'ai subi toutes sortes d'examens. Et la réponse était toujours la même, c'était « ce n'est pas ça ». C'est incroyable le nombre de maladies que je n'avais pas. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de maladies. Et bien moi, c'était formidable. Je n'avais aucune de ces maladies-là. Mais en même temps, ça ne m'aidait pas beaucoup parce que ça m'empêchait de faire des projets d'avenir. Est-ce que je vais rester longtemps comme ça? Peut-être toujours. Est-ce que je vais pouvoir un jour remener ma vie d'avant ou au moins une vie normale? Est-ce que ça va s'aggraver? Est-ce que je vais mourir d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques années? Et devant ces questions sans réponse, je m'en souviens bien, j'en venais à espérer que l'on me trouve enfin une maladie, même grave. Parce qu'au moins, si on me trouvait quelque chose, ça me permettait de savoir sur quoi m'appuyer pour mes projets de vie, savoir ce que je pouvais envisager de faire, ou peut-être les choses auxquelles je devais définitivement renoncer de faire. J'aurais bien aimé savoir, mais j'étais dans l'incertitude quant à l'évolution de ma maladie. C'est justement dans cette situation d'incertitude que nous nous trouvons face à la guérison. Nous savons que Dieu peut guérir, mais nous ne sommes pas certains qu'il le fera. Eh bien, c'est justement dans ces moments-là, dans ces moments d'incertitude, que nous pouvons pleinement rencontrer Dieu et trouver en lui l'espoir et le soutien dont nous avons besoin lorsque nous sommes confrontés pour nous-mêmes ou pour des proches à la maladie. Survolons donc ce que nous dit la parole de Dieu sur la guérison. Et nous allons commencer par l'Ancien Testament, donc par la période qui précède la venue de Jésus. En survolant l'Ancien Testament, nous voyons que, par exemple, Dieu promet à son peuple que si jamais il accepte de le suivre fidèlement, Dieu éloignera de son peuple la maladie. Exode 23, 25 nous dit ceci, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu ». J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ici, la protection divine contre la maladie semble liée à la fidélité de son peuple. Mais, dans le psaume 41, verset 3, donc toutes ces références se trouvent dans vos fascicules, ce verset parle justement de quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Eh bien, il est écrit « L'Éternel le soutient ». Sur son lit de souffrance, il le soulage dans toutes ses maladies. Ce n'est pas la guérison qui est promise à celui qui est fidèle à Dieu, mais le soutien, le soulagement de Dieu face à la maladie. Et l'intervention de Dieu ne se limite pas à ceux qui forment son peuple. On pourrait dire, bon, ça c'est que valable pour ceux qui font partie de son peuple. Mais en 2 Rois 5, par exemple, alors c'est le chapitre, vous avez 2 Rois 4 qui est mentionné en référence sur vos fascicules, eh bien le chapitre juste derrière nous parle de la guérison d'un certain Naaman. Et en fait, Naaman était un général syrien qui était à ce moment-là en guerre contre le peuple de Dieu. Et nous découvrons que, bien qu'il soit en guerre contre le peuple de Dieu, Dieu va le guérir de sa maladie. Au travers de ces exemples et surtout de dizaines d'autres que l'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est comme si Dès le début de l'histoire, Dieu voulait montrer aux hommes à la fois sa souveraineté sur la maladie et sa capacité de déguérir, mais tout en soulignant que si Dieu peut guérir, cela ne se produit pas toujours. Dieu peut aussi intervenir en venant non pas guérir, mais en venant soulager ceux qui souffrent de la maladie. Dieu peut les rejoindre là où ils en sont, dans le souci de les accompagner, de les aider. Et puis, Dieu a également fait en sorte que nous comprenions que la guérison ou la non-guérison n'est pas forcément liée à notre intimité avec Dieu. Dieu guérit parfois des personnes qui sont proches de lui, mais également, il guérit parfois des personnes qui sont loin de lui. Des fois, on entend trop ces discours simplistes qui consistent à dire aux gens, mais voilà, si tu es fidèle à Dieu, etc., Dieu va forcément te guérir. Et quand ce n'est pas ce que vivent les gens, bien, les gens se sentent coupables. Et ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que Dieu ne me guérisse pas? Bien, une lecture de la Bible nous montre que cette conception est erronée, de croire qu'il suffit d'être fidèle, il suffit d'être parfait, entre guillemets, c'est une question de perfection, pour que Dieu guérisse. Les choses ne sont pas si simples que cela. Dans le Nouveau Testament, donc après la venue de Jésus, nous voyons que Dieu maintient cet équilibre. Nous voyons par exemple que Jésus a envoyé en voyage ses 12 apôtres avec entre autres la mission et donc la puissance qui va avec de guérir toute maladie et même toute infirmité. Matthieu 10, 1 dit ceci, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus, une autre fois, envoie en voyage un cercle un peu plus large. Parmi ses proches, 70 ou 72, selon les traductions, selon les manuscrits. Et là, eux, ils ont la mission d'annoncer aux personnes que Dieu s'est approché d'elles. Et comme signe qui atteste la vérité de leur message, Jésus leur donne le pouvoir de guérir les malades. Luc 10, 9, Jésus dit « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » On pourrait dire « Ça y est, Jésus maintenant, à partir du moment où Jésus est là, c'est clair, la guérison est au cœur de la mission. » Pourtant, entre le moment de sa résurrection et le moment où il est remonté au ciel, on voit que Jésus a confié à l'ensemble de ses disciples une mission valable pour tous ceux qui croiraient en lui. On trouve cette mission en Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans l'évangile de Matthieu, on ne trouve aucune autre parole que Jésus aurait dit pour envoyer ses disciples en mission. Et c'est curieux parce que bien que Jésus dispose de tout pouvoir, après son ascension, Jésus ne confie plus à ses disciples la mission de guérir. La guérison ne sera donc pas ou plus quelque chose d'automatique. Ce qui ne voudra pas non plus dire que la guérison sera totalement absente, parce que l'évangile de Marc nous rapporte également d'autres paroles de Jésus concernant ceux qui seront ses disciples. Celles-ci, vous ne les trouvez pas dans votre fascicule. Marc 16, 17 et 18. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Voici les signes. Cela peut également être traduit par « voici les miracles », parce qu'en fait le mot contre « miracle » est en grec le mot qui signifie « signe ». Un miracle était quelque chose d'extraordinaire, un signe que Dieu envoyait pour attester qu'il était en train d'accomplir quelque chose. Et dans ce passage, le signe miraculeux est là pour attester que les disciples, que le message qu'ils annoncent est un message qui vient bien de Dieu. Dieu peut guérir aujourd'hui, mais la guérison n'est pas quelque chose d'automatique. Et tous ces divers cas nous montrent que, en aucun cas, nous pouvons enfermer la guérison dans une règle. Et un homme illustre bien cela, c'est l'apôtre Paul. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu la vie de l'apôtre Paul, mais on voit que, en dehors de Jésus, c'est celui vraiment dont il est rapporté le plus de miracles. Il a compris de nombreux miracles, y compris des miracles de guérison. Et Paul faisait visiblement partie des personnes ayant reçu un don de guérison, qui est un des dons que le Saint-Esprit peut donner, comme cela est mentionné en 1 Corinthiens 12. Paul avait reçu ce don de guérison. Il avait également prié pour que la guérison arrive. Et on voit que très souvent, il a été exaucé. Mais pourtant, la Bible nous rapporte deux cas où ni son don, ni ses prières n'ont débouché sur une guérison. Tout d'abord, on découvre que lui-même n'a pas été guéri d'une maladie qui l'handicapait dans son service pour Dieu et le faisait souffrir. Par recoupement, on pense qu'il s'agissait d'une maladie des yeux. En 2 Corinthiens 12, 8 et 9, qui n'est pas non plus dans vos fascicules, Paul dit cela, « Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans sa souveraineté, Dieu n'a pas guéri Paul, mais il a fait comprendre que malgré sa toute puissance, eh bien, il l'accompagnait dans sa faiblesse. Dans sa faiblesse causée par sa maladie. Et il lui a également montré que la grâce qu'il avait reçue de Dieu était telle qu'elle était suffisante pour sa vie dans sa situation. On découvre également qu'un des plus proches collaborateurs de Paul s'appelait Timothée, quelqu'un que Paul considérait comme son propre fils, eh bien, et pour lequel il priait bien sûr, eh bien, Timothée n'a pas été guéri non plus de sa maladie, à tel point que Paul, un jour, lorsqu'il lui écrit une lettre, lui conseille de se soigner avec les remèdes de l'époque. 1 Timothée 5:23, il écrit ceci, « Cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. » Et Timothée, tout comme Paul, était handicapé dans son service pour Dieu. Bien sûr, ça peut sembler évident qu'on va prier pour cela. Dieu va répondre, parce que c'est un frein à son service. Eh bien, ce n'était pas si évident, parce qu'en tout cas, Dieu n'a pas guéri Paul, en tout cas au moins d'une de ses maladies, ni Timothée. Nous retrouvons donc cet équilibre dans le Nouveau Testament. Oui, Dieu peut guérir. Dieu peut guérir, mais Dieu peut aussi répondre à nos prières par d'autres moyens que la guérison. Et cela n'est pas incompatible avec la grâce de Dieu, bien au contraire. La grâce de Dieu se déverse sur ceux qui connaissent la maladie, mais pas la guérison. Nous avons développé un peu plus la partie biblique, du coup nous pouvons passer plus rapidement sur les deux prochains points, qui est la guérison dans l'histoire de l'Église. Alors, vu que l'on ne peut pas connaître avec certitude quelle était la foi de ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire de l'Église selon Dieu, moi je préfère ce titre, la guérison dans l'histoire de ceux qui se disaient chrétiens. Et puis, depuis 2000 ans, on entend parler à diverses reprises de miracles et de guérisons. Alors, c'est cependant plus difficile d'établir formellement que ce sont des guérisons parce que ces sources ne sont pas bibliques, donc elles ne sont pas forcément fiables, et puis elles sont susceptibles d'être le fruit d'interprétations erronées, une mauvaise compréhension de la situation. ou d'exagération, des fois on aimerait tellement que Dieu fasse ça, voire même également d'affabulation. Mais malgré tout, en raison du nombre et de la diversité de ces témoignages qui nous parlent de guérison, ça nous montre que Dieu continue à guérir aujourd'hui. Que depuis l'ascension de Jésus, Dieu continue d'intervenir dans ce monde. Il semblerait cependant que Dieu choisisse d'intervenir plus à certaines périodes qu'à d'autres, également plus dans certains contextes que d'autres, mais sans qu'on parvienne à en expliquer les raisons. La souveraineté de Dieu est totale dans ce domaine. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement l'histoire passée, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il en est aujourd'hui, pour nous, dans notre contexte. Et l'important pour nous, aujourd'hui, c'est de conserver ce juste équilibre. Oui, Dieu peut guérir aujourd'hui. Et pour nous, aujourd'hui, cela peut nous faire peur de prier pour demander à Dieu de guérir. Parce que si jamais Dieu guérissait toujours, ou même s'il guérissait souvent, eh bien, ça se saurait. Nous avons donc peur, souvent, et moi je parle ici de moi, de prier pour la guérison, parce que nous ne sommes pas certains que Dieu guérira. Nous avons peur pour nous-mêmes, peur d'être déçus. C'est plus simple de ne rien demander à Dieu que de demander quelque chose et de voir qu'il ne répond pas. Donc on a peur d'être déçus, des fois on préfère ne rien demander. Et puis peut-être que nous avons également peur, parce que si nous prions pour quelqu'un d'autre qui est malade, soit physiquement, soit dont le cœur a besoin d'être guéri, eh bien nous avons peut-être peur que cette personne soit déçue. Alors ça nous amène au point suivant, mais donc comment faut-il aborder la prière de guérison? Aux points qui sont mentionnés sur votre fascicule, j'en rajouterai trois, et puis je ne vais pas les traiter dans le même ordre. Il me semble que tout d'abord, une chose que nous devons incorporer dans notre prière pour la guérison, c'est l'humilité. Rappelons-nous que ce n'est pas nous qui guérissons, mais que c'est Dieu. La guérison ne dépend pas de nous, mais elle dépend de Dieu. Et puis gardons en tête que nous ne pouvons pas présumer de la manière dont Dieu répondra à nos prières. Si nous avons foi en Jésus, nous savons que Dieu entendra nos prières, nous savons qu'il les répondra, mais nous ne savons pas comment. Dieu est au-dessus de tout, Dieu poursuit un plan parfait qui nous échappe, et cela doit nous conduire à avoir beaucoup d'humilité. Et bien sûr, cette humilité doit nous amener à un autre point qui est la prudence. La prudence dans ce que nous croyons que Dieu fera, et aussi la prudence dans ce que nous allons dire aux autres, et en particulier aux personnes qui sont malades. Attention de ne pas faire de fausses promesses. Dieu est un soutien, ça c'est certain, mais ne promettons pas que Dieu agira de telle ou telle manière, parce que nous ne savons pas ce que Dieu fera. En revanche, et ça c'est quelque chose que nous savons qui est Dieu, et en particulier que Dieu est amour et que Dieu est puissant. Nous pouvons donc le prier comment ? Avec foi. Je vous rappelle que avoir foi en Dieu, c'est placer notre confiance en Dieu. Eh bien, nous pouvons prier Dieu en lui faisant confiance. Nous pouvons nous confier en Dieu parce que Dieu est digne de notre confiance. Dieu est amour, Dieu est puissant, Dieu connaît toutes choses et la volonté de Dieu est parfaite. Ce qui veut dire que nous pouvons pleinement nous confier en Dieu. Lorsque nous-mêmes, ou bien des personnes qui sont proches de nous, sont confrontées à la maladie. Nous ne savons pas ce que Dieu fera, mais nous savons par contre qu'il entendra nos prières et qu'il y répondra d'une manière ou d'une autre. L'amour est également un point qui doit être présent dans nos prières de guérison. Notre amour pour Dieu et aussi notre amour pour notre prochain. Si c'est autre chose que l'amour qui nous motive, ça veut dire que nous sommes sortis du plan de Dieu. Mais si jamais nous aimons, alors notre amour doit se concrétiser par des actes. Et la prière pour ceux qui sont malades est une des expressions de notre amour pour eux, de notre double amour, je dirais même, de notre amour pour Dieu et de notre amour pour le malade. La simplicité, soyons simples dans nos prières, parce que nous l'avons vu, la guérison ne dépend pas d'une technique particulière, mais elle dépend seulement de Dieu. Et comme pour nous prémunir de cela, Jésus, par sa vie, a démontré que la guérison ne dépend pas d'une manière particulière de faire les choses. Parfois, Jésus a touché la personne qui l'a guéri, d'autres fois, il ne les a pas touchés. Parfois, Jésus a fait un long chemin pour venir auprès des personnes malades, d'autres fois, il les a guéris à distance sans même les voir. Parfois, il a prié à haute voix, en public, d'autres fois, il n'a rien dit d'audible. Puisqu'il n'y a pas de règle, alors autant faire les choses simplement. Autant ne pas nous compliquer les choses. Faisons ce qui est à notre portée, avec ce que nous sommes, et aussi en nous laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de technique sur le fascicule, il n'est proposé qu'un modèle que vous pourrez mettre en pratique dès ce soir, bien sûr seulement si c'est votre désir. On nous propose ceci, qu'est-ce qui ne va pas ? Nous demandons à la personne ce qui ne va pas, et pourquoi, pour qui elle aimerait que nous prions. Parce que prier dans le vague, des fois, c'est trop simple parfois de dire, mais moi je prie, c'est ça qui compte. Moi je prie pour que tout se passe bien sur toute la terre entière. Souvent, ce type de prière-là traduit en fait, non pas une grande foi, mais plutôt un désintérêt que nous avons pour les personnes. On ne se soucie même pas de savoir quel est leur besoin et on met tout le monde dans une prière qui peut-être nous rassure, mais qui en fait ne correspond peut-être pas aux besoins des gens, là où ils se trouvent. Qu'est-ce qui ne va pas ? Si cela n'a pas été exprimé, demandons pourquoi cette personne souffre d'être malade ? Parce que des fois, ce n'est pas la maladie elle-même qui est le plus difficile à supporter, mais ce sont les conséquences de la maladie, les conséquences que cette maladie peut avoir dans notre vie, dans notre morale, pour notre entourage et notre travail. Aujourd'hui, j'ai discuté avec quelqu'un, et j'ai été très touché par cet échange, quelqu'un qui est vraiment, qui fait partie des gens, on va dire, très, très malades. Et en fait, sa souffrance, sa plus grande souffrance, c'est qu'il se dit qu'il est un fardeau pour sa femme et ses enfants. Et c'est ça qui est le plus dur pour lui. Le plus dur pour lui, c'est non pas sa propre maladie, mais c'est l'impact qu'a sa maladie sur ceux qu'il aime et à quel point cette maladie l'handicape dans sa relation avec eux. Demandons pourquoi cette personne souffre de cette maladie. Et les conséquences que ça peut avoir peut-être, c'est peut-être très douloureux pour elle par rapport à sa famille, ses proches, son travail, l'image qu'elle a d'elle-même. Nous pouvons ainsi prier pour que Dieu intervienne afin de guérir les corps, mais aussi les cœurs, les âmes, et d'intervenir pour améliorer certaines situations qui sont des fois douloureuse ou dramatique à cause de la maladie. Vient alors le moment de comment prier, une fois qu'on sait tout cela. Lorsque nous prions, nous devons nous rappeler que si nous pouvons prier notre Père Céleste, ce n'est pas parce que nous-mêmes nous le méritons, mais c'est parce que Jésus a offert sa vie en sacrifice pour notre propre péché. Nous pouvons prier Dieu non pas parce que nous le méritons, mais parce que Jésus nous en a rendu dignes par le pardon de nos péchés. C'est lui qui nous ouvre cet accès auprès du Père. C'est pour ça que parfois nous pouvons prier en son nom. C'est au nom de Jésus que nous prions. Alors ce n'est pas une obligation bien sûr, mais parfois exprimer à haute voix que nous prions au nom de Jésus peut nous aider à nous placer devant Dieu avec la juste attitude. Ce n'est pas « Seigneur, écoute-moi, parce que avec ma foi ultra puissante, je vais bouger les choses. » Non, c'est humblement. « Seigneur, c'est au nom de Jésus que je t'adresse cette prière. » Que demander dans nos prières ? Alors le Saint-Esprit peut parfois nous amener à prier dans tel ou tel sens et à faire des demandes spécifiques. Et si nous ne savons pas que demander dans nos prières, voilà en tout cas, moi, personnellement, ce qui me sert de guide. Je demande à Dieu ce qu'il y a de meilleur pour la personne pour laquelle je prie. Parce que si c'est l'amour qui motive mes prières, si je suis capable de mettre de côté mes propres peurs, dire « mais est-ce que Dieu répondra ou pas ?» Pourquoi est-ce que je pourrais prier d'autres ? Qu'est-ce que je pourrais demander d'autre à Dieu que le meilleur pour la personne pour laquelle je prie ? Qu'est-ce qui justifierait que je ne demande pas le meilleur ? Et bien sûr, souvent, lorsque nous percevons la maladie, on se dit que le meilleur, c'est la guérison. Alors, on peut se tromper, bien sûr, personnellement, sur ce qui est le meilleur pour la personne. Mais en tout cas, lorsqu'on prie en demandant le meilleur, on a l'assurance que nous sommes pleinement dans le plan de Dieu. Nous sommes dans le juste ton. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est de souhaiter pour tous le meilleur. Moi, je reconnais, j'ai peur parfois de prier cela. Et aujourd'hui, avec cette personne, j'ai prié pour sa guérison. J'ai prié aussi pour d'autres choses, ses souffrances qu'elle avait dans ses relations avec les autres. Bien souvent, c'est la peur qui retient nos prières. Mais Dieu ne nous demande pas de céder à nos peurs, mais au contraire, de nous confier en lui, même si nous avons peur. Le vrai courage n'est pas d'ignorer la peur. Le courage, c'est d'oser avancer malgré nos peurs. Eh bien, Dieu nous demande de lui faire confiance malgré nos peurs. Sur les fascicules, il est également écrit « Que ressent la personne ?» Alors moi, personnellement, je ne suis pas sûr que cette question soit une bonne question à poser après avoir prié pour la guérison. Mais je dirais tout dépend de notre motivation. Si notre motivation, c'est de tester l'efficacité de la prière, afin éventuellement de la modifier ou de la répéter jusqu'à ce qu'elle soit efficace, jusqu'à ce que la personne se sente mieux, voilà. Comment est-ce que tu te sens ? Ah, c'est pas encore ça, allez, on va recommencer. Mais je pense que nous faisons fausse route. Parce que la prière, ce n'est pas une formule magique qui marche à coup sûr, si on a trouvé les bons mots. Ce n'est pas non plus une question de volonté propre, mais la prière, c'est deux choses. C'est l'expression de notre amour pour cette personne que nous plaçons devant Dieu, et c'est cette confiance que Dieu peut guérir. Mais par contre, si derrière cette question « comment tu te sens ?», notre motivation est de savoir où en est la personne, dans le souci de mieux l'accompagner, alors oui, nous pouvons poser cette question. Et puis après avoir prié, que faire ? Rappelons-nous que la manière dont Dieu exaucera notre prière ne nous appartient pas. Ni quand, ni comment, ça, c'est la responsabilité de Dieu et ce n'est pas la nôtre. Par contre, nous pouvons inviter la personne, si ce n'est pas déjà le cas, à se confier en Jésus. C'est pas sûr, des fois les gens ne sont pas du tout ouverts à ça. Mais parfois, nous pouvons aussi inviter les gens à se confier en Jésus parce que, encore plus que la guérison qui soigne le présent, cette vie présente, ce dont la personne a vraiment besoin pour vivre, c'est de se réconcilier avec Dieu. C'est de rentrer dans cette vie nouvelle, dans cette relation, dans cette communion avec Dieu. Et à moins que Dieu nous ait clairement fait comprendre le contraire, nous pouvons également prier plusieurs fois pour la guérison d'une personne. Nous sommes même encouragés par Dieu lui-même à ne pas nous décourager, mais au contraire à être persévérants lorsque nous le prions. Dieu savait déjà à l'avance qu'un des risques que nous rencontrons dans notre vie de prière, c'est de nous décourager. Et en Colossiens 4, 2, là aussi c'est pas dans vos fascicules, Dieu nous dit « persévérez dans la prière ». Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Persévérons dans notre vie de prière. Il nous est cependant rappelé d'être reconnaissants. Nous pouvons être reconnaissants parce que Dieu entend nos prières. Et parce que à partir de nos prières, nous savons que Dieu y répondra, même si des fois on ne voit pas comment. Nous oublions trop souvent d'être reconnaissants. Nous sommes tellement focalisés sur le type de résultat que nous voudrions que nous oublions d'être reconnaissants. Les deux choses doivent être ensemble, la persévérance et la reconnaissance. Et comme conclusion, je vous propose ce verset que je vous invite à lire avec moi, donc à trouver dans la Bible, qui est dans la lettre aux Philippiens. Si vous avez une Bible blanche, vous pouvez l'ouvrir à la page 772. Philippiens au chapitre 4, et je lirai deux versets, des versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu peut guérir. Aussi, faisons-lui connaître tous nos besoins, y compris ceux qui concernent la guérison. Dieu peut guérir physiquement et Dieu peut aussi guérir intérieurement, en particulier en apportant sa paix à nos cœurs qui sont dans la tourmente. Et c'est ce que ce verset souligne particulièrement. Une paix malgré la maladie, une paix malgré un passé blessant, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. Que ce soit la guérison de nos corps ou la paix de nos cœurs, nous recevrons de Dieu quelque chose de bon si nous nous tournons vers lui. Cela vaut donc non seulement la peine que nous le prions, mais cela justifie également que nous persévérions dans nos prières pour que Dieu apporte la guérison ou bien qu'il renouvelle en nous sa paix que nous perdons parfois si facilement.